L'alternative, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Vous ne vous êtes pas trompé, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous êtes connectés sur votre très chère émission L'Heure de la Vérité. Où que vous soyez, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir une fois de plus, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Une fois de plus, nous bénissons le Très-Haut qui nous donne ce merveilleux privilège, non seulement d'être parmi les vivants, mais de passer un peu de notre temps dans sa sainte présence, dans sa sainte parole. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ. D'après Romains chapitre 10, le verset 17. Comme d'habitude, cette émission se déroule toujours sous l'œil très très vigilant et très très attentif de son Excellence, sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, l'admirable conseiller, le Seigneur Jésus-Christ. Et bien entendu, le Saint-Esprit également au total contrôle. Et sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te rendons infiniment grâce pour ce précieux moment que tu nous accordes autour de ta sainte parole, car c'est un moment privilégié, car ta parole est la vérité. Il est écrit que les hommes connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Seigneur, que cette vérité biblique qui sera proclamée puisse vraiment atteindre son but, à savoir toucher le cœur des uns et des autres et surtout les affranchir de captivité. Saint-Père, que tout esprit qui ne te glorifie pas, qui ne confesse pas ton Saint-Nom, qui se lèvera en quelque lieu que ce soit, de quelque manière que ce soit, Seigneur, contre la connaissance de la vérité, soit tenu assujetti complètement au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, prends le total contrôle de tout ce qui va se faire, du début jusqu'à la fin, étant donné que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Je te présente tous ces auditeurs et auditrices, où qu'ils se trouvent, bénis-les. Que ton esprit, Seigneur, puisse bénir ta parole dans les cœurs. Et que tous ceux-là qui ont même des problèmes, Seigneur, que ce moment soit un moment privilégié où ils trouveront des solutions à leurs problèmes du moment où ils sont, Seigneur, connectés, Seigneur, à ta sainte présence, à ta sainte parole. Seigneur, tu as dit que tu envoies ta parole pour guérir. Merci, parce que ta parole qui va sortir va certainement guérir les uns et les autres d'une manière ou de l'autre. Merci, Seigneur. Parce que tu es au total contrôle, tu agiras, tu béniras certainement ce moment, tu béniras tous ceux qui sont à l'écoute à partir de ce moment même. Et Seigneur Jésus, toute la gloire, les honneurs, les actions de grâce vont tout simplement te revenir à toi et rien qu'à toi seul. Amen. Dans ce studio, une fois de plus, je ne suis pas tout seul. J'ai à côté de moi le frère Yannick, à qui je veux dire sois béni dans le nom de Jésus.
Amen, bien-aimé. Je profite de cette occasion pour saluer tous les fidèles auditeurs et auditrices de l'heure de la vérité. Soyez toujours connectés pour la bonne santé de votre âme. Car rien n'est plus merveilleux que d'être en parfait état de santé spirituelle. Amen.
Amen. À ma très chère épouse Josie et à mes trois enfants, Nathanaël, Emmanuel à God's Glory et Merveille Divine. Papa Augustin qui nous écoute de l'autre côté de la chefferie, la Célé Divine également, sans oublier Linda, le frère Narcisse et son épouse, Henri, Tani Henri et son épouse Mani Adeline. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.
Amen.
Emma qui nous écoute de l'autre côté de Vumbat, tu es la sœur Karine de l'autre côté de Nouton. Et la sœur Marlise également, oui, je vous salue dans le nom du puissant Seigneur Jésus et soyez abondamment bénis. Bien entendu, tous les bien-aimés frères dans le Seigneur qui aiment particulièrement cette mission, où que vous soyez, soyez abondamment bénis au nom tout puissant du Seigneur Jésus.
Amen.
L'heure de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans concession, sans compromis et sans détour. Beaucoup le savent déjà. L'aide de la vérité, nous ne sommes pas là pour faire la propagande d'une religion. Nous ne sommes pas là au nom d'une religion, ni au nom d'un système religieux ou d'une dénomination. La religion, ça ne m'intéresse pas du tout. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu n'est pas la religion. La religion ne peut sauver personne. Oui, c'est Jésus-Christ seul qui sauve. C'est la parole de Dieu seul qui sauve et qui délivre. Donc, nous sommes là, tout simplement, pour vous apporter la vérité biblique, la bonne parole du Dieu vivant, cette vérité qui seule a franchi. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, comme d'habitude, très chers auditeurs, nous vous invitons à avoir un stylo et sur quoi noter tous les versets bibliques qui seront donnés. Parce qu'une fois de plus, notre souhait, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur la parole du Dieu vivant et non sur les dogmes des hommes et non sur la philosophie des hommes et non sur les pensées humaines. Oui, ayez vraiment quelque chose pour noter tous les versets bibliques. Après même cette émission, prenez tout votre temps pour vérifier, pour être sûr que ce que nous disons est exact. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'exactitude. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'à peu près. Nous sommes là pour partager la bonne parole du Dieu vivant avec vous et aussi pour prier ensemble avec vous, afin que le Seigneur puisse faire quelque chose. Comme promis, nous allons continuer sur le mariage, ce sujet qui est très très intéressant. Il y a ce message, cet auditeur qui nous envoie en disant qu'il a vraiment besoin que l'on prie pour lui. Et c'est Eric de Moya. Oui, il a des problèmes, particulièrement les problèmes des yeux. Et il a vraiment mal. Seigneur, je te présente Eric de Moya qui vient d'envoyer ce message parce qu'il a vraiment des problèmes des yeux qui le font vraiment mal. Seigneur, tu es venu pour donner la vue aux aveugles. Seigneur, d'abord de façon spirituelle, mais tu l'as aussi prouvé de façon physique en accordant aux aveugles de retrouver la vue dans les Saintes Écritures. Il est écrit, Seigneur Jésus, que tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, c'est vrai, nous pouvons prendre toutes sortes de médicaments, mais la vérité, c'est que la véritable guérison ne vient que de toi.
Amen.
Les médecins ne font que tout simplement proposer des médicaments. En réalité, c'est toi celui qui guéris. Seigneur, souviens-toi d'Éric de Moya avec ses problèmes des yeux et tous les autres problèmes qu'il a. Intervient puissamment. Oh Dieu, que ta divine guérison descende sur lui, que ta délivrance totale soit son partage. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que je crois que tu as écouté, que tu agiras même au-delà. Il témoignera, toute la gloire te reviendra. Amen.
Amen.
Oui, Éric de Moya, que le Seigneur te fortifie dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus, et que par la grâce de Dieu, tu puisses vraiment avoir foi que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre est suffisamment puissant pour t'accorder sa grâce et sa divine guérison. Je disais tantôt que nous allons continuer à nous entretenir sur ce sujet très intéressant qu'est le mariage. Pour un petit résumé, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, et pour ceux qui n'avaient pas très bien saisi certaines choses, nous avons à propos du mariage. Oui, le texte de base, bien entendu, c'est Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 19. À partir de ce texte, nous avons planté le décor. Nous avons vu que, particulièrement concernant nos jeunes gens, que Dieu voulait, dans son plan parfait, que les gens se préservent de toute relation sexuelle jusqu'à ce qu'ils aillent en mariage. Donc, Dieu tient à ce que les gens gardent leur virginité jusqu'au mariage. Et nous avons également soutenu cela par une portion de Sainte Écritures, nous avons également lu, c'était dans Deutéronome, oui, chapitre 22, à partir du verset 13 au verset 21. Dieu tenait vraiment à ce que les jeunes gens aillent en mariage étant vierges, que ce soit l'homme ou la femme, et que ceux qui ont déjà eu à avoir des relations sexuelles alors qu'ils ne sont pas encore mariés, la Bible appelle tout simplement cela péché, et c'est un péché de fornication. Et vous deviez vous repentir, demander sincèrement pardon à Dieu. Et la Bible nous dit que le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ versé à la croix nous purifie de toute souillure. D'après 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Donc vous qui avez eu des relations sexuelles alors que vous n'êtes pas encore mariés, c'est un péché aux yeux de Dieu. Repentez-vous, demandez sincèrement pardon à Dieu. Et promettez-lui de vous réserver jusqu'à ce que vous soyez mariés. Et vous qui êtes encore vierge, gardez votre virginité jusqu'au mariage. La grâce de Dieu surabondera certainement dans votre vie. Et nous avons également parlé de la dot. Nous avons vu à la lumière de Saintes Écritures. C'est vrai que j'avais donné certains versets. Nous pouvons lire au moins une portion de Saintes Écritures. Que la dot, c'était juste un présent que la famille de l'homme donné à la famille de la femme, ou un présent que l'homme donnait à la famille de la femme juste pour exprimer sa gratitude, parce qu'ils ont non seulement mis cette fille au monde, mais ils ont pris le temps de l'élever et de l'éduquer jusqu'à ce que cette fille aille en mariage. Ce n'était pas une marchandise qu'on vendait. Oui, la femme n'était pas une marchandise qu'on vendait. C'était juste un présent. Nous pouvons lire une portion de Saintes Écritures pour soutenir cela. Nous pouvons lire, par exemple, dans Genèse, chapitre 24, à partir du verset 50 au verset 54. Il s'agit ici de la femme d'Isaac qui a été demandée en mariage. Isaac. Ils sont dans Genèse 24, à partir du verset 50, verset 54, que le frère Yannick peut lire pour nous.
Laban et Béthuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que les choses viennent. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. »
Amen. Nous voyons ici que c'est cette personne qui est partie demander la femme en mariage qui avait prévu des présents qu'il a donné à la famille et ceux qui étaient autour. En fait, dans le plan de Dieu, ça devrait être ainsi. Parce que en réalité, une femme n'a pas de prix. Moi particulièrement, j'ai des enfants, j'ai des filles, avec tous les sacrifices, toutes les dépenses que je mets en œuvre pour les voir épanouies, je ne vois pas ce qu'un homme pourrait un jour me donner qui puisse compenser cela. Donc c'est pour cette raison qu'en réalité, on ne peut pas considérer comme si on vendait l'enfant. C'est juste un cadeau symbolique que le marié ou la famille du marié peut donner aux parents de la fille juste pour dire qu'ils sont contents, qu'ils sont reconnaissants. Et si l'homme est riche ou sa famille est riche, normalement ce présent sera tellement considérable. Ça va dépendre de leur richesse. Oui, parce que parfois on peut refuser à un homme, une femme, tout simplement parce qu'il est pauvre. Ce qui n'est pas normal. La seule chose que les parents doivent chercher à savoir, c'est si ce mariage vient de Dieu. Si ce mariage vient de Dieu, ils doivent bénir les filles et l'envoyer. Et je disais déjà que quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui et dans les jours à venir devenir multimillionnaire. Donc le fait que quelqu'un soit pauvre aujourd'hui ne veut pas dire qu'il va demeurer pauvre toute sa vie. Oui, c'est vrai que si une jeune fille a la grâce de tomber sur quelqu'un qui est riche, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas cela qui est la priorité des priorités. Et nous avons également vu que Dieu, dans son plan, n'avait pas prévu la polygamie. Il avait donné une seule femme à Adam. Et pourtant, Adam, avec Ève, avait la charge de remplir toute la terre. Si Dieu avait prévu la polygamie, il aurait donné même 1000 femmes à Adam pour que la terre soit vite remplie. Mais il lui a donné une seule femme. Et avec cette femme, ils avaient la charge de remplir toute la terre. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Puisque nous sommes tout simplement les descendants d'Adam et Ève. Oui. Et malheureusement, les gens se sont entêtés, se sont détournés du droit chemin en ayant plusieurs femmes. Particulièrement même dans les Saintes Écritures, il y a des cas, particulièrement des rois, mais c'était juste la rébellion. N'empêche, les polygames ne sont pas du tout rejetés par Dieu. Ils ont leur place dans le royaume des cieux et dans la maison de Dieu. S'ils se repentent et reconnaissent quelque part ils ont failli, Dieu les acceptera et Dieu les sauvera. Seulement, la Bible nous dit que parmi les anciens de l'Église, ils ne peuvent pas être anciens. Oui, lorsque j'ai parlé des dirigeants de l'Église, je me suis beaucoup attardé sur ces sujets. Oui, les polygames ne doivent pas postuler comme anciens selon les Saintes Écritures. Nous avons lu cela dans 1 Timothée chapitre 3. Et ce message qui arrive, je voulais que vous priez pour maman car elle a mal à la main. Ok. Et également, quelle est la durée des fiançailles dans les normes ecclésiastiques? Éric de Bangoua. Je tiens à dire que les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Les fiançailles, c'est juste ce temps qui permet aux futurs mariés de réfléchir encore davantage sur cet engagement qu'ils vont prendre, à savoir s'unir dans les liens du mariage. Oui, les fiançailles, c'est ce temps qui permet de se connaître davantage et surtout de réfléchir, de planifier certaines choses avant de s'engager définitivement sur ce chemin qu'est le mariage. Et les fiançailles n'étant pas le mariage, à tout moment, les fiançailles peuvent se rompre si l'un et l'autre se rendent compte qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre ou bien il y a des choses qui clochent et qui vraiment peuvent être des choses pouvant justifier le fait de rompre les fiançailles. Oui. Et si les fiançailles, ce n'est pas le mariage, ceux qui sont fiancés ne doivent pas non plus habiter sous un même toit, ne doivent pas non plus coucher ensemble, parce que ce n'est pas encore le mariage. Parce que les relations sexuelles particulièrement ont été prévues uniquement dans le cadre du mariage. Mais nous allons lire au moins une portion de Saintes Écritures pour essayer de comprendre. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 18. Oui, l'évangile de Matthieu, chapitre 1, le verset 18. Frère Yannick, tu vas lire ce verset pour nous tous. L'évangile de Matthieu, chapitre 1, le verset 18.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient habité ensemble. Parole du Seigneur.
Amen. La Bible nous dit clairement ici que Marie avait été fiancée à Joseph, et pourtant ils ne vivaient pas encore ensemble. Pourtant ils étaient fiancés. Vous dites que lorsqu'on est fiancé, on ne doit pas vivre ensemble. On ne doit pas non plus avoir des relations sexuelles. Et la Bible n'a pas statué sur la durée. Ça dépend de chaque couple. Si, à un moment donné, vous estimez que vous vous connaissez déjà suffisamment et que tout est en règle, particulièrement au niveau de la famille, qu'il n'y a aucun blocage, vous pouvez vous marier le plus tôt possible. Puis il n'y a pas une durée déterminée concernant les fiançailles. Mais il n'est pas conseillé que les fiançailles durent trop. Oui, parce que quand les fiançailles durent trop, ce n'est pas du tout bien. Ça peut pousser les fiancés à tomber dans le péché. Oui, les fiançailles ne doivent pas trop durer. C'est juste ce temps qui permet aux futurs mariés de bien réfléchir sur l'engagement qu'ils vont prendre et surtout de mettre certaines choses en règle, particulièrement pour l'homme aller voir les membres de la famille de la fille, régler certains détails et choisir ensemble un jour pour la célébration au niveau de la famille où on va remettre officiellement la fille ou la femme à l'homme. Oui. Donc, en ce qui concerne la durée, la Bible n'ayant pas dit quelle sera la durée, nous ne pouvons pas dire qu'il faut telle durée pour rester biblique. Bonsoir pasteur, priez pour ma mère, elle a mal au ventre et aux pieds. Valérie du quartier 6. Seigneur, te présentons, Seigneur, d'abord cette maman qui a mal à la main et aussi cette maman qui a mal aux pieds et au ventre. Seigneur, tu es ce grand Dieu qui se soucie aussi de notre santé physique. Seigneur, prends le temps contrôle de ces deux malades que tu connais parfaitement parce que tu les connais en ce moment et tu connais la douleur qu'elles sont en train d'endurer. Seigneur, aie pitié, interviens, manifeste-toi et ô Dieu, dans ta bonté infinie, tu peux nous accorder cette grâce, accorder ton amour, ta bonté infinie. Fais-le, pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous aimes et que toute la gloire te revienne. Amen.
Amen.
Frère Yannick, tu peux lire notre texte de base. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2, à partir du verset 19. Mais tu peux lire particulièrement le verset 24. Genèse, chapitre 2.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur.
Amen. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Dans cette portion de Saintes Écritures, nous pouvons également remarquer que le mariage, c'est une affaire de gens matures. Lorsque la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, cela sous-entend que c'est quelqu'un qui n'est plus sous l'autorité directe de ses parents, quelqu'un qui est déjà quand même mature, qui est responsable de ses actes, de ses décisions, de sa vie. Parce que quelqu'un qui est encore sous le toit de ses parents, qui est encore prise en charge par ses parents, qui est encore soutenu matériellement et financièrement par ses parents, quelqu'un qui dépend exclusivement de ses parents, ne doit pas s'engager sur ce chemin qu'est le mariage. Parce que le mariage, c'est quand même pour des gens matures. Parce que quand quelqu'un s'engage sur ce chemin, Cette personne s'engage à porter sa propre croix. Donc c'est une personne vraiment mature. La maturité ici, ce n'est pas seulement par rapport à l'âge, c'est aussi beaucoup plus de façon spirituelle et intellectuelle. C'est pour dire que quoi? Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, ces personnes qui vont s'engager sur ce chemin doivent être matures, doivent avoir une certaine maturité. Pour dire que ce n'est pas normal que l'on marie les mineurs. On a vu dans certaines zones où on envoie des filles en mariage à 9 ans, 12 ans, 14 ans même, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Cette jeune fille ne sait pas ce que c'est que le mariage. Elle ne sait pas où elle va et ce qu'elle fait. Alors que, dans cette portion de Sainte Écriture que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse, concernant la femme d'Isaac, Rebecca, ses parents vont l'appeler et demander son avis. Est-ce que tu veux aller avec cet homme? Et elle va dire oui. On a demandé son avis. Donc on ne peut pas envoyer une fille en mariage sans demander son avis. Ce n'est pas sérieux. Et c'est vice versa. Donc vous qui nous écoutez, particulièrement hommes ou femmes, si vous ne savez pas ce que c'est que le mariage, ne vous engagez pas sur ce chemin. D'ailleurs, si vous voulez vous marier, vous deviez vous asseoir, parce que c'est une entreprise sérieuse, et réfléchir, faire des recherches, chercher des conseils avant de vous engager, parce que c'est un chemin de non-retour. Lorsque nous allons lire cela, la Bible est claire dessus, on se marie une seule fois. Dieu n'a pas prévu le divorce. Oui, Dieu n'a pas du tout prévu le divorce. Vous qui venez de vous connecter, vous écoutez l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce message, pourquoi on se marie et quelle est notre mission que Dieu nous demande. C'est vrai que je n'arrive pas à bien saisir le sens de cette question, mais pourquoi on se marie? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Oui, c'est une question très très pertinente. Pourquoi est-ce qu'on se marie? C'est vrai que les motifs qui nous poussent à nous marier, si ces motifs sont des mauvais motifs, il faut être sûr qu'on va faire un mauvais mariage. Et je vais prendre quelques exemples en passant. Certaines personnes se marient parce qu'ils veulent les enfants. C'est vrai que Dieu bénit le mariage en donnant les enfants. Mais si votre motif premier, votre raison principale de vous marier, ce sont les enfants, vous êtes vraiment dans l'erreur. Parce que vous pouvez vous marier et ne pas avoir les enfants. Oui. Et si vous vous mariez et que vous n'avez pas des enfants, ou bien les enfants dans le moment que vous aurez souhaité, voilà les problèmes. Bonjour les problèmes. Oui. Si vous vous mariez parce que vous voulez avoir quelqu'un qui va vous préparer une bonne nourriture chaque fois, laver vos habits, tout cela fait partie du mariage. Mais si c'est ça le motif premier, principal, la première raison qui vous pousse à vous marier, là vous êtes également dans l'erreur. Un jour, un frère m'avait dit qu'il voulait se marier parce que il veut quelqu'un qui va, une personne qui va chaque fois lui préparer à manger, parce que il a trop faim et il voudrait vraiment avoir quelqu'un qui chaque fois va lui faire à manger lorsqu'il en a besoin. C'est pour cette raison qu'il voudrait se marier. Je lui ai dit, mon frère, si ton problème c'est la nourriture, ce n'est pas d'une femme dont tu as besoin d'un service traiteur. Parce que les services traiteurs sont là pour préparer à manger aux gens. Si ce n'est que parce que tu veux quelqu'un qui va laver et repasser tes habits, le pressing est là pour ça. Vous n'avez pas besoin de vous marier juste pour ça. Le pressing est là pour laver les habits et les repasser. C'est vrai, tout cela fait partie du mariage, mais ce ne sont pas ces choses qui doivent être des raisons principales. C'est plus que cela, le mariage, c'est plus que cela. Le mariage, c'est juste le désir de vivre à deux et de d'aimer cette personne et en s'efforçant de rendre cette personne heureuse. Bien entendu, en accomplissant la volonté de Dieu avec cette personne. Oui, c'est le désir de vivre ensemble avec une personne en renonçant à sa propre vie et en vivant en quelque sorte aussi pour faire plaisir à cette personne. Parce que si la personne avec qui vous vivez, vous ne l'aimez pas suffisamment pour pouvoir supporter tout ce qui peut arriver, en réalité, ce n'est pas vraiment ça le mariage. Donc les motifs qui nous poussent à nous marier déterminent aussi si nous sommes dans l'erreur ou pas. En fait, l'amour, tout simplement, doit être au centre du mariage, parce que Dieu lui-même est amour. Si c'est l'amour qui pousse les gens à se marier, ces personnes pourront se supporter même toute la vie, parce que la raison principale, c'était tout simplement l'amour, et rien de plus. Mais s'il y avait autre chose que l'amour, lorsque cette chose ne doit pas marcher, le mariage va aussi finir. Si ce n'est que l'argent ou la beauté qui est au centre du mariage, lorsqu'il n'y aura pas de l'argent ou lorsque la beauté va se ternir, le mariage va aussi finir. Toutes ces choses sont de bonnes choses, mais ça ne doit pas prendre la première place. C'est l'amour qui doit être au centre. Vous écoutez l'aide de la vérité. L'aide de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans concession, sans détour et sans compromis. Très chers auditeurs, nous allons écouter une ponctuation musicale.
C'est que rien n'est plus profond que cet amour qui m'a créé, que l'océan de ce pardon dans l'eau duquel tu m'as lavé. Je sais que rien n'est plus précieux que ton regard sur mes péchés, que l'espérance au fond des yeux qui me font naître à ta beauté. Alors pourquoi me détourner,
pourquoi,
quand je sais que tu m'aimes? Pourquoi m'enfuir et m'enfermer dans le fond de mes peines, puisque tu m'aimes,
tu m'aimes,
puisque tu m'aimes? Je sais qu'aucun ne m'aimera, d'un amour plus profond que toi. Je sais que rien n'est ici-bas plus grand ni plus puissant que toi. Je sais bien plus que je ne crois. Je sais tes œuvres et tes bontés. Pour l'avoir en moi, de par le don que tu me fais. Alors pourquoi me détourner, quand je sais que tu m'aimes? Pourquoi m'enfuir et m'enfermer dans le fond de mes peines, puisque tu m'aimes?
Vous écoutez l'heure de la vérité. Si les motifs pour se marier sont les relations sexuelles, là aussi c'est une erreur. Bien sûr que les relations sexuelles font partie du mariage, mais ça ne doit pas être la raison principale qui doit nous pousser à nous marier. Parce que si c'est la raison principale, lorsque vous n'allez pas parvenir à être satisfait à ce niveau, ou après les relations sexuelles, si ce n'est que tout autour de cela que tourne votre vision, vous n'allez plus considérer les autres aspects du mariage. Et c'est dangereux. Donc, Donc toutes ces choses, l'argent, la beauté, la nourriture, les relations sexuelles font partie du mariage, mais tout cela ne doit pas être la raison principale pour se marier. La raison principale pour se marier, c'est l'amour. Parce qu'on a aimé quelqu'un et on a décidé de vivre avec cette personne jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce message qui dit, pasteur, je voudrais que vous priez pour moi, pour toute l'équipe de radio, pour toute ma famille et pour tous mes amis. Cet auditeur n'a pas signé. Nous allons prier. Seigneur, nous te présentons cet auditeur. Tu connais où il se trouve. Il n'a pas donné son nom. Tu le connais. Tu connais tous ses problèmes, toute sa famille et tous ses amis. Seigneur, bénis-le. Bénis sa maison. Bénis ses amis. Bénis aussi cette radio. Seigneur, les gens sont en train de nous écouter au travers de cette radio. Bénis vraiment cette radio. Bénis tous ceux qui travaillent sur tout. Bénis particulièrement cette mission de la vérité. Et qu'au travers de cette radio, au travers de cette mission, beaucoup puissent être édifiés, bénis, sauvés, délivrés. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Également, ce message, je voudrais que vous priez pour mon examen et pour tous mes problèmes. Cet auditeur non plus n'a pas signé. Pas son nom. Vous pouvez signer vos SMS avec vos noms, s'il vous plaît, parce que même après cette mission, nous allons continuer à prier pour vous jusqu'à ce que Dieu agisse. Désormais, il en sera ainsi. C'est un engagement que nous prenons solennellement, à savoir prier pour tous ceux-là qui en ont besoin jusqu'à ce que Dieu agisse dans leur vie et change les choses. Frère Yannick, tu dois lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36, avant de lire, c'est juste pour faire comprendre à nos auditeurs et auditrices, à partir de quand est-ce qu'on est marié. C'est très très important. À partir de quand est-ce qu'on est marié? On n'est pas marié parce qu'on a vécu longtemps ensemble. On n'est pas marié parce qu'on a eu des enfants. Il faut le savoir. Le fait que vous ayez des enfants avec quelqu'un ne veut pas forcément dire que vous êtes marié ou que vous allez même vous marier obligatoirement. Le fait que vous ayez vécu longtemps avec quelqu'un, parfois les gens vivent en concubinage, et Dieu est contre cela, parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc le concubinage n'est pas biblique. Le fait d'avoir les enfants non plus sans passer par les liens du mariage de façon officielle, ce n'est pas non plus biblique. Donc tout cela, ce n'est pas le mariage. À partir de quand est-ce qu'on est marié? Et frère Yannick, tu vas d'abord lire cette portion de Sainte Écriture. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36.
Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une femme, une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut.
Oui, mon frère, tu peux t'arrêter la clause de ministre. Dans cette portion de Sainte Écriture, la Bible nous dit que quoi? Que si un papa décide de donner sa fille en mariage, ce n'est pas du tout un péché. Cela sous-entend que c'est le papa qui donne sa fille en mariage. Donc, tant qu'un père n'a pas dit que je donne mon enfant en mariage à telle personne, il n'y a pas du tout eu mariage. Vous pouvez aller voir tous les prêtres de la terre, les pasteurs du monde entier, et même aller à la mairie. Ce n'est pas le prêtre ou le pasteur qui donne une fille en mariage à un homme. Ce n'est même pas monsieur le maire qui donne une fille en mariage à un homme. C'est le papa. C'est lui qui a mis sa fille au monde. Et c'est lui qui a cette responsabilité de donner sa fille ou pas en mariage. C'est pour cette raison que j'insistais la dernière fois que le mariage, c'est avant tout une fête familiale. Donc, lorsqu'on veut se marier avec une fille, on va se rapprocher des parents et demander officiellement la main de cette fille aux parents, particulièrement le père, s'il est encore vivant, s'il n'est pas vivant, son représentant, et essayer de le convaincre jusqu'à ce qu'il soit d'accord. Et lorsqu'il est d'accord, c'est lui qui se charge maintenant d'organiser une fête à la maison, et il invite les amis, les autres membres de la famille, et il dit, à partir de ce jour, j'ai accepté que je donne ma fille en mariage à telle personne. Et dès qu'il prononce ce mot, le mariage est validé au ciel.
Amen.
Le mariage est validé au ciel. Donc, tant que il n'a pas, cette étape n'a pas été traversée, il n'y a pas du tout mariage. Que vous ayez même 20 enfants, que vous vivez même 30 ans, ça ne veut rien dire. Parce que les gens vivent parfois en concubinage, ils font des enfants, mais ils ne veulent pas du tout aller voir les parents pour prendre officiellement la femme en mariage. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Quelque part, c'est mépriser eux-mêmes les parents qui ont mis cet enfant au monde. Lorsque les parents acceptent de donner leur fille en mariage, aux yeux de tout le monde, maintenant, les mariés peuvent aller tout simplement officialiser leur mariage à la mairie. Comprenez très bien, la mairie ne légalise pas le mariage, la mairie officialise. C'est différent. La mairie est là pour officialiser. Alors, si vous êtes parti voir les parents, si tout se passe bien, il n'y aurait aucun problème d'aller à la mairie pour officialiser votre mariage. Ça ne coûte rien. Pour dire aussi que ce n'est pas sérieux que les gens aillent voir les membres de la famille, parfois même donnent la dot qu'on a demandé, mais traînent-les pas quant à savoir aller à la mairie officialiser. Parce que lorsque vous officialisez votre mariage à la mairie, c'est très très important dans la mesure où, pour ceux qui sont des fonctionnaires, l'État reconnaît vos enfants. Et c'est important que l'État connaisse les enfants de ses employés. Et de deux, s'il arrive que le mari meurt, les gens ne peuvent pas venir s'accaparer des biens du mari n'importe comment. Parce qu'on a vu des familles où lorsque le mari meurt, les gens, les membres de la famille du mari viennent mettre carrément les enfants et la femme dehors en disant nous ne te connaissons pas. D'ailleurs, il n'y a rien qui prouve que tu es la femme de notre frère. Alors que s'il y a un acte de mariage légalisé, cette maman qui a les enfants, qui a perdu son mari, peut facilement aller se plaindre au tribunal et avoir raison. Amen. Donc voilà pourquoi c'est très très important que si vous avez déjà été correct au niveau de la famille, il n'y a rien qui vous empêche d'aller officialiser votre mariage à la mairie. C'est vivement conseillé. Mais, je le répète, la mairie ne légalise pas le mariage, elle officialise. Parce qu'il y a parfois les gens qui prennent les filles des gens en cachette et vont quand même à la mairie légaliser. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous pouvez, il y a des exceptions en tout, aller à la mairie officialiser votre mariage si et seulement si, ça ce sont des cas maintenant de force majeure, si les parents s'opposent à votre union juste pour s'opposer sans donner des raisons vraiment valables. Même dans ce cas, si vous priez sincèrement, Dieu touchera le cœur de ses parents, de ce père. Si vous êtes sérieux, Dieu finira par toucher leur cœur. Et ils finiront par accepter officiellement de vous donner leur fille en mariage et tout en vous bénissant. Et lorsque le père bénit sa fille avant de l'envoyer en mariage, cette fille sera bénie.
Amen.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je disais que ce ne sont pas les prêtres et les pasteurs qui bénissent un mariage. Ce sont les parents. D'ailleurs, j'avais tellement parlé de cela. La bénédiction nuptiale n'est pas née dans l'église ni dans la Bible. Il dit bien la bénédiction nuptiale. C'est au concile des Trente, entre 1545 et 1563, que cela a été voté. La bénédiction nuptiale. Et c'est devenu une pratique religieuse très très répandue. Au point où certains se disent que tant qu'ils ne sont pas partis bénir les mariages à l'église, les mariages n'est pas reconnu aux yeux de Dieu. Donc c'est un mensonge. Si les parents sont au courant de votre union, si les parents ont béni votre mariage, ce mariage est déjà béni. Amen. Aux yeux de Amen. Dieu et selon les Saintes Écritures. Et si quelqu'un a des preuves ou bien a autre chose à dire et qu'il peut soutenir par les Saintes Écritures, qu'il le soutienne. Parce que parfois c'est un problème de l'argent dans les églises. Sous prétexte qu'ils vont bénir les mariés. Tout ça, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Également, ce message Ladine, qui voudrait que l'on prie pour elle, son examen. Seigneur, Nadine va composer. Seigneur, prends le temps contrôle. Accorde-lui ta sagesse. Seigneur, accorde-lui ta santé. Qu'elle soit en bonne santé, physique, spirituelle et morale, intellectuelle. Et que par ta grâce, tout puisse passer dans les bonnes conditions pour elle. Seigneur, si elle a appris correctement ses leçons, donne-lui de reproduire exactement ce qu'elle a appris. Merci Seigneur de la bénir et que toute la gloire te revienne. Amen.
Amen.
En passant, je voudrais donner un conseil à ceux-là qui fréquentent. Sachez que vous devez apprendre sérieusement vos leçons. Si vous apprenez vos leçons, c'est déjà très bien. Et en priant, le Seigneur va juste bénir ce que vous avez appris et vous donner l'opportunité et de bien reproduire dans la salle d'examen ce que vous avez appris et retenu. Donc, ne dormez pas sur vos oreillers en pensant que Dieu va faire un miracle pour que vous réussissiez. Non, Dieu n'est pas un marabout. Dieu bénit nos efforts.
Amen.
Vous écoutez l'heure de la vérité. Nous sommes en train de parler du mariage. Il y a également un sujet très, très intéressant, le divorce. Que dit la Bible sur le divorce? Que dit exactement la Bible concernant le divorce? Dieu n'a pas du tout prévu dans son plan le divorce. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 24, le premier verset.
Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Parole du Seigneur.
Amen. Je disais tantôt que Dieu n'avait pas prévu le divorce, mais curieusement, nous voyons aussi une portion des Saintes Écritures qui parle pourtant du divorce. Est-ce que Dieu se contredit? Pas du tout. Dieu ne se contredit jamais. D'ailleurs, les gens ont abordé le Seigneur Jésus, lui ont posé cette question, et ils sont rentrés d'ailleurs sur ce texte de Deutéronome chapitre 24, le premier verset. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du premier verset au verset 12. Les gens ont interpellé le Seigneur Jésus sur cette question de divorce. Et nous allons écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire, va répondre. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du premier verset au verset 12.
Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous avez prescrit Moïse. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Jésus leur dit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Parole du Seigneur.
Amen. Nous voyons les pharisiens qui chaque fois étaient là pour essayer de tendre des pièges au Seigneur Jésus, vont l'aborder avec cette question de divorce. La Bible nous dit que les pharisiens l'abordaient et pour l'éprouver, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Verset 5, que Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ dit bien que c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Moïse était obligé de permettre aux hommes de pouvoir répudier les femmes. Mais Jésus renvoie les hommes au commencement. Il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il les a renvoyés au commencement. Donc c'était à cause de la dureté du cœur des hommes que Moïse était obligé de demander aux hommes de répudier les femmes. Et déjà je disais toujours sur cette même antenne que la séparation est également différente du divorce. Je dis bien que la séparation est différente du divorce. Il peut arriver qu'un couple se sépare, mais ce n'est pas du tout le divorce. Je vais prendre un cas. Si une femme est par exemple dans une maison où elle est devenue le tam-tam, où son mari fait le kickboxing sur elle, pour ne pas perdre sa vie, elle doit vraiment se séparer pour un temps. Parce qu'elle ne peut pas rester là au risque de perdre sa vie. Là, elle se sépare de son mari pour ne pas perdre sa vie. Mais ce n'est pas du tout le divorce. Ça, c'est un exemple que je prends. Donc la séparation ne veut pas forcément dire le divorce. Pour des multiples raisons, les gens peuvent se séparer temporairement, mais ce n'est pas le divorce. Et Jésus va continuer en disant que l'homme ne sépare pas dans ce que Dieu a joint. Donc lorsque les gens sont déjà unis dans les liens du mariage, aux yeux de Dieu, personne ne doit jamais séparer cela, même pas le tribunal de ce monde. Donc tous les divorces qui se prononcent dans les tribunaux de ce monde, si ces gens sont mariés vraiment, légalement et officiellement, ce divorce n'est pas considéré aux yeux de Dieu. C'est parfois dur à avaler, mais c'est ça qui est la vérité.
Amen.
Et d'ailleurs, Jésus va enfoncer le clou en disant ceci. Nous sommes au verset 10 de Marc, chapitre 10. Il va dire ceci. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Donc c'était tellement intéressant que même ses disciples sont revenus sur ce sujet. Verset 11, il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. » C'est clair, Jésus dit que si vous répudiez votre femme et si vous épousez une autre femme, c'est l'adultère à ses yeux. Pour dire que si vous répudiez votre femme, vous n'avez plus le droit de reprendre une autre femme. Parce que votre femme que vous avez répudiée reste toujours votre femme. Même si vous ne vivez plus ensemble sous le même toit. Aux yeux de Dieu, depuis le jour que vous avez été marié légalement dans la famille, ce mariage a été validé au ciel. Cette femme reste votre femme pour la vie.
Amen.
Le verset 11, Jésus va continuer maintenant pour la femme en disant, « Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Peu importe la raison qui peut pousser une femme à quitter son mari. elle doit demeurer sans plus se remarier. Jésus dit que si elle épouse un autre homme, c'est l'adultère. Donc présentement, je suis en train de m'entretenir avec vous. Beaucoup sont dans l'adultère sans le savoir. Beaucoup ont dit, oh mon mari c'est un sorcier, ma femme c'est une sorcière, elle est montée, elle est descendue, il est ceci, il est cela. Oui, supposons qu'il est sorcier, supposons qu'elle est sorcière, supposons qu'il est ceci ou elle est cela. Séparez-vous, mais vous n'avez plus le droit de vous marier selon les Saintes Écritures.
Amen.
Parce que ce mariage que vous allez encore contracter aux yeux de Dieu, c'est l'adultère tout simplement. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende.
Amen.
Vous savez, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent divorcer et se remarier comme si c'était l'amusement, comme ils le veulent. Parfois même certains pasteurs s'aventurent dans ce chemin tortueux, ce chemin de la perdition. Disent que, oh, cette femme, non, ce n'était pas ma femme, je me suis trompé, Dieu m'a maintenant montré ma vraie femme. Et c'est comme ça qu'il part se remarier. C'est terrible, c'est de l'adultère. Ceux qui sont dans cette situation doivent se repentir et retourner à leur femme légitime ou à leur mari légitime, leur premier mari ou leur première femme. Ce message, prier pour mes parents, venant de Ladine. Nous sommes bientôt à la fin de notre émission de ce jour. Seigneur, je te présente une fois de plus les parents de Ladine. Tu connais ces parents dans les moindres détails, particulièrement les problèmes qu'ils peuvent traverser en ce moment-ci. Seigneur, bénis-les abondamment. Et manifeste-toi puissamment dans les vies en te révélant particulièrement à eux. Parce que, Seigneur, tu voudrais aussi que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, à la repentance, au salut, surtout au-delà de toutes sortes de bénédictions que tu peux leur accorder, que ton salut soit les partages. Merci Seigneur de nous écouter et d'agir même au-delà de nos prières. Amen. Nous sommes bientôt à la fin de notre émission de ce jour. Et avant de nous séparer, nous allons lire ce dernier verset. Nous sommes en train de parler du mariage et que dit la Bible concernant particulièrement le divorce. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7 qui parle particulièrement du mariage. Mais les versets qui nous intéressent, versets 10 et 11. 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 10 et 11, frère Yannick, tu peux lire pour nous tous.
À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme, parole du Seigneur.
Amen. La Bible est claire et formelle. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 10. La Bible nous dit clairement que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. La Bible est claire. Lorsque deux personnes se séparent, pour n'importe quelle raison, si ces personnes aspirent encore au mariage, la seule voie qui est encore possible et ouverte au-devant d'eux, c'est la réconciliation et non le remariage avec une autre personne. Et nous allons lire également pour clore dans Romains chapitre 7, à partir du premier verset au verset 3. Vous voyez que le mariage est un sujet tellement sérieux qu'on ne doit pas prendre cela à la légère parce qu'on se marie une fois pour toutes. Oui, nous sommes dans Romains, chapitre 7, à partir du premier verset au verset 3.
Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre.
Amen. La Bible est claire et formelle. La loi de Dieu lie les mariés aussi longtemps que les deux partenaires sont vivants. Ce n'est que la mort qui brise les liens du mariage. La Bible nous dit que si du vivant de l'un des partenaires, une autre personne aille se marier, c'est de l'adultère. Mais si l'autre conjoint meurt, la personne qui est encore vivante est libre de se marier à qui elle veut. Là, il n'y a pas du tout de problème. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez été énormément bénis, édifiés. De toutes les façons, si vous avez des préoccupations, s'il y a un élément qui vous a échappé, que vous voulez davantage connaître après cette émission, ce n'est pas fini. Vous pouvez toujours entrer en contact avec nous. Ces deux numéros restent toujours à votre écoute. Oui, ces deux numéros restent en service. Le 74-61-94-22, le 95-38-38-37. Vous pouvez continuer à agir, que ce soit en envoyant des SMS ou bien en nous appelant directement. Et si vous avez même des préoccupations nécessitant la prière, nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. C'est un engagement que nous avons pris solennellement. Ce message qui arrive juste à l'instant même, c'est lui, si on fait le rapport avec une femme, et à la fin, il y a mariage, est-ce que cela peut être considéré comme de l'adultère? C'est un péché aux yeux de Dieu parce que vous avez volé votre propre nourriture. Vous avez volé votre propre nourriture. Imaginez quelqu'un qui vole sa propre nourriture. C'est un péché, vous devez également vous repentir. Parce que vous avez consommé avant le temps. Ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Je vous encourage à continuer à envoyer vos messages, comme je le disais tantôt. Nous allons continuer à prier pour vous, à répondre à vos préoccupations, même après cette émission. Et ces deux numéros restent en ligne, comme je le disais tantôt. Mais avant de nous séparer, nous allons également prier. Nous allons prier, remettre notre nation entre les mains du Seigneur, remettre cette vie et ce département, et ces multitudes de personnes qui ont besoin que le Seigneur agisse puissamment dans la vie. Seigneur, sois béni pour ce moment que tu nous as accordé dans ta sainte parole, dans ta sainte présence. Seigneur, il n'y a rien de mieux. Une heure dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, beaucoup sont vraiment dans les sérieux problèmes, tu les connais, dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les prisons. Oh Seigneur, nous te les présentons. Chacun dans sa situation agit puissamment. Toi, qui es le Dieu des oppressés, le Dieu des opprimés, le Père des orphelins, le mari des veuves, Seigneur, souviens-toi d'eux. Agis puissamment dans les vies. Seigneur, toi qui es venu pour affranchir et libérer même les captifs, ceux qui sont même dans les prisons, même injustement, souviens-toi d'eux. Même ceux qui sont là parce qu'ils ont commis réellement des crimes ou des fautes, Père, pardonne-les et par ta grâce, touche les cœurs et accorde-les la grâce de sortir de cette prison étant transformés. Parce que, Seigneur, lorsque tu affranchis, on devient réellement libre, selon ta parole. Seigneur, nous te consacrons ce département. En tant que roi des rois, Seigneur, le Seigneur, viens et règne sur ce département. Seigneur, là où tu règnes, le diable n'a pas de place. Les mauvaises choses n'ont pas de place. Les forces des ténèbres n'ont pas de place. Viens établir ton trône et ton règne sur ce département, sur cette ville, ô Dieu. Et que, Seigneur, toutes les forces des ténèbres qui tentent à détruire tes créatures de plusieurs manières soient assujetties au nom tout puissant du Seigneur Jésus.
Amen.
Seigneur, nous proclamons et nous décrétons que aussi longtemps que nous sommes dans ce département, dans cette ville, et que nous t'invoquons tous les jours, c'est toi qui régneras. C'est toi qui auras le dernier mot.
Amen.
Nous refusons tout autre règne qui n'est pas ton règne au nom du puissant du Seigneur Jésus.
Amen.
Seigneur, nous te consacrons notre nation. Seigneur, tu as dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Seigneur, c'est vrai, dans cette nation, beaucoup invoquent des faux dieux, mais nous, nous invoquons le vrai Dieu, l'Éternel des armées. Seigneur, nous te consacrons cette nation. Prends le total contrôle. Seigneur, laisse que cette nation soit une nation où les gens te craignent véritablement. parce que nous savons que des choses terribles se commettent dans cette nation. Toutes sortes d'abominations se commettent dans cette nation. Mais jusqu'à présent, ta grâce surabonde. Pardonne les iniquités de cette nation. Et aie pitié. Et viens toucher le cœur de ceux qui nous dirigent. Viens toucher le cœur des multitudes. Et que cette nation soit vraiment un sanctuaire où ton nom est glorifié en esprit et en vérité. Seigneur, que des multitudes se détournent de leurs mauvaises actions et se tournent véritablement vers toi. Seigneur, nous te consacrons vraiment nos autorités qui nous dirigent dans cette nation, qui nous dirigent dans ce département, qui nous dirigent, Seigneur, dans cette province. Seigneur, merci de te souvenir de ces multitudes de familles qui sont dans des difficultés. Beaucoup qui ont signé des pactes avec des forces des ténèbres et qui aujourd'hui payent le prix fort. Seigneur, viens et délivre-les. Viens et affranchis-les. Viens et entre dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, nous voulons voir des multitudes se tourner vers toi pour être sauvés, pour être libérés et pour expérimenter ta paix, ta joie et ta bénédiction. Seigneur, merci d'agir même au-delà de nos prières. Merci de bénir tous ceux-là qui nous ont écoutés, où qu'ils se trouvent. Merci de permettre que prochainement, nous puissions encore nous retrouver, Seigneur, à la même heure. Et bénis, Seigneur, toi-même, ceux-là, ô Dieu, qui ont soif de toi, qui voudraient te connaître davantage, qui voudraient se donner à toi. Donne-leur de le faire dans le plus bref délai. Merci, Seigneur Jésus, de te manifester au-delà de nos prières. Que toute la gloire, les honneurs, la majesté, le règne et la puissance te reviennent à toi et rien qu'à toi seul, parce que toi seul es digne de les recevoir maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen.
Amen.
Très chers auditeurs, nous sommes à la fin. Avant de nous séparer, je tiens une fois de plus à dire que sentez-vous libre de vous rapprocher de nous. N'ayez pas peur. Pour nous rencontrer, vous n'avez pas besoin de protocole. Beaucoup savent où me trouver. Et si vous voulez vous entretenir sur des questions personnelles, sentez-vous vraiment libre. Sentez-vous vraiment libre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver sur cette même antenne. Et une fois de plus, je bénis particulièrement ma très chère épouse et mes enfants. Et mon frère Yannick aussi, qui est ici avec moi, je le bénis particulièrement. Que le Seigneur le bénisse et le fortifie dans le nom de Jésus. Seigneur, moi, nous allons nous séparer.
Je suis tellement béni par ce message et je prie ceux-là qui ont écouté de bien vouloir saisir bien ce message. Pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, de bien vouloir mettre en pratique ce qui a été dit depuis ici. Pour bien se conformer et être béni par le Seigneur. Car quand on marche vraiment comme le Seigneur veut, on est béni. Amen.
Amen. J'étais également béni. Jemima et Adolphe qui vont se marier à la fin du mois, que le Seigneur les bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse également tous ceux-là qui sont en train de vouloir se marier selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse également abondamment et à bientôt.
Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité. L'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.